Alors, Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, eh bien, ce sera son nom de saint, mais d'abord son nom de bienheureux, puisque le 19 novembre prochain, en Avignon, il y aura la cérémonie de béatification du Père Marie-Eugène. Alors c'est un nom, on m'a dit c'est un petit peu difficile de retenir ce nom, mais c'est le nom qu'il a reçu en entrant au Carmel en 1922. Et c'est, alors il a choisi son nom pour plusieurs raisons. D'abord il y a Marie, qui est le nom de sa maman, qu'il aimait passionnément. Et puis Marie-Eugène, c'est le nom d'une carmélite qu'il avait initiée à la spiritualité du Carmel. Et puis bien sûr, de l'enfant Jésus, c'est la petite Thérèse. Dans le monde, en fait, il s'appelle Henri Grialou, un nom aveyronnais, parce qu'il est né en Aveyron en 1894 dans le bassin minier de Decazeville, où son père travaillait à la mine. Sa famille d'origine paysanne est pauvre, d'autant plus que le père est mort soudain d'un refroidissement en 3 jours et qu'il a laissé sa femme avec leurs 5 enfants à élever. Alors Henri Grialou est très vite attiré par le sacerdoce et chaque matin en allant à l'école il passe devant la cure et il se dit intérieurement « je serai prêtre ». Mais bon, autrefois comme aujourd'hui les études coûtent cher. Et pour réaliser son rêve, il doit partir tout seul en Italie, à 11 ans, étudier gratuitement chez les Pères du Saint-Esprit. Alors vous voyez déjà un appel de Dieu qui se concrétise en un acte fort dans la vie de ce petit garçon presque héroïque. Et il en reviendra 3 ans plus tard. Il est resté 3 ans en Italie sans rentrer chez lui. Et finalement, le dur travail de sa maman lui a permis de continuer sa formation en France, dans le diocèse de Rodez. Mais la guerre, la Première Guerre mondiale, se profile à l'horizon. Et on conseille à Henri de devancer l'appel pour choisir son arme et rester ainsi à Rodez, à proximité du séminaire. Mais finalement, ça le mettra sous les drapeaux pendant 6 ans, 1913-1919. Et alors, la guerre s'avère pour lui une expérience humaine indélébile. Il a traversé l'enfer de la souffrance, puis en même temps, il a appris à connaître les hommes. Il a dû y développer un tempérament de chef. Mais surtout, il a témoigné par son être de chrétien. Et il a compris par expérience la nécessité d'aller vers ses contemporains, de sortir. Enfin, le pape François nous parle assez des périphéries. Hein, et qu'il ne faut pas rester là à attendre les gens à la porte de nos églises ou de nos couvents. Vous voyez, la guerre lui a donné cette expérience. Allez, sortez. Et bien avant la guerre déjà, alors qu'il n'avait encore que 13-14 ans, il a découvert Thérèse de Lisieux. Et dont l'expérience spirituelle le fascine. Et c'est une rencontre intérieure unique qui lui a révélé une profondeur mystérieuse hein, et qui a scellé l'amitié de toute une vie. Le Père Marie-Eugène sans Thérèse, on ne peut pas en parler. Hein. Ils sont très très liés. Et il dira d'elle justement que c'est elle qui a arrêté les balles durant la guerre, qui l'a vraiment protégé, lui et ses poilus, hein, et qui l'a ramené de l'enfer des tranchées. Quand on lit un petit peu l'histoire de Thérèse et sa vie posthume, hein, on voit qu'elle a protégé les soldats, aussi bien du côté allemand que du côté français. Elle a arrêté les balles. Et alors il a écrit plus tard de Thérèse, n'est-elle pas comme une amie d'enfance, une petite sainte qui a vécu auprès de nous et qui, à mesure que nous grandissions, nous faisait ses confidences, nous montrait les secrets de son âme? Elle est surtout pour nous une maîtresse spirituelle. Modestement, mais avec quelle sûreté, elle nous a enseigné sa petite voie nous a appris la confiance, nous a appris l'abandon, après nous avoir révélé quelque chose de ce qu'elle a découvert elle-même dans la Trinité, ce foyer brûlant qu'est l'amour, qu'est l'Esprit Saint. Alors quand sonne l'armistice, après 6 ans de guerre, et quelle guerre, bien, un monde nouveau s'ouvre devant le lieutenant Grialou. Que va-t-il faire? Il était très doué en lettres, il aurait pu faire des études de lettres, son frère lui recommandait des études de droit, mais Dieu l'a saisi et c'est pour toujours. Dieu le veut tout à lui. Et pourtant, Henri se sent libre. Toute personne qui a la vocation, d'ailleurs, fait la même expérience. Henri se sent libre, mais libre surtout de consentir à la volonté de Dieu, qui l'invite à retrouver le séminaire, où il sera ordonné 3 ans plus tard, le 4 février 1922. Et il dira à ce moment-là, « J'ai opté pour le prêtre à fond. » Alors, si j'avais le temps de vous en parler longuement, je pourrais vous dire avec qu'est-ce qu'il a souffert en rentrant au séminaire après 6 ans de guerre et en se retrouvant avec des petits jeunes qui n'avaient rien vécu de tout cela et qui étaient passés devant lui. Hein. Donc voilà, j'ai opté pour le prêtre à fond. Il est tout à la joie de laisser Dieu épancher son amour en lui et de miser toute sa vie sur le Christ. Ça a été jusqu'à la fin. C'est la joie du oui, voyez, qui s'est exprimée lors de son ordination sacerdotale. À l'époque, il y avait toujours un délégué, le soir de l'ordination, qui était chargé de dire un petit mot au nom de tous. Alors, ce mot est magnifique, je vais vous en donner juste une phrase. « Je suis prêtre, prêtre pour l'éternité. Vous voulez que je sois une hostie? Je m'offre à vous pour tout ce que vous voudrez. » Pour la paix, pour la joie, comme pour l'obscurité et la souffrance. Alors on peut se dire, bon maintenant il s'en va vers la prêtrise, dans l'Aveyron, tout est bien tracé. Hein. Eh bien non, non, car Dieu l'attend au Carmel. Il en a l'intime certitude. Il n'avait jamais vu un Carme, mais en lisant une nuit la vie de Saint Jean de la Croix, il a dit c'est ça. Alors, prêtre, très bien, hein. À l'époque, c'était une vocation bien acceptée et même admirée, hein. Mais carme, hein. Surtout qu'à l'époque, on confondait la vie d'un carme avec celle d'une carmélite. Et tout le monde sait qu'une carmélite, elle est en clôture et qu'elle sort jamais. Alors, que d'opposition il a rencontré alors, hein. Son évêque était contre, son directeur spirituel, sa maman, bien sûr, hein. Mais Henri... Et c'est la priorité à Dieu toute sa vie. Et le regard fixé sur Jésus, il garde confiance. Il se dit, si Dieu le veut, je rentrerai au Carmel. Il expérimente, on peut dire, ces contrastes déconcertants, ces antinomies, qui sont le signe de Dieu, au fond, ici-bas. À la fois la joie et la souffrance, bon, on en a tous l'expérience, la certitude et l'obscurité, la sagesse de Dieu, la sagesse humaine, tout ça qui se mélange. Mais dans ce consentement à l'appel de Dieu, une fois de plus, j'insiste, Henri trouve sa véritable liberté. Et il l'exprimera ainsi dans une lettre à sa sœur. Il lui dit « Don complet, liberté complète, abandon complet entre les bras de Dieu. » Alors qu'est-ce qu'il attend au Carmel ? Hein? Eh bien, ce qu'il attend au Carmel et qu'il va vivre avec beaucoup de joie, eh bien, ce sont ces longs contacts avec Dieu dans la prière silencieuse qu'on appelle au Carmel l'oraison, à la suite des saints du Carmel. C'est le charisme du Carmel dans l'Église. Comme vous savez, il y a de grandes familles spirituelles. Non, ben les dominicains se dévouent pour l'étude de la théologie, la lumière du Christ, les bénédictins, la louange, les franciscains, la joie, la pauvreté, etc. Ben les carmes, ils sont voués à l'oraison, c'est-à-dire à la prière silencieuse, et un peu soutenue, disons. Et le père Marie Eugène y résume ainsi l'oraison. Je le cite, « Dieu me connaît, il m'aime. Et moi, à mon tour, je le connais et je l'aime. Il m'aime comme un père et je l'aime comme un fils. C'est sa joie. » Oui, c'est vraiment la joie de Dieu, mais c'est aussi la joie du père Marie Eugène. Ça devient sa raison d'être et d'agir. Et cette présence de Dieu en lui, et cette présence de Dieu, elle est en nous, eh bien, le père Marie Eugène nous invite sans cesse à la développer, à laisser pénétrer Dieu en nous par la porte de la prière. Et en soi, c'est magnifique de développer cette vie intérieure, c'est à notre portée, et c'est à chaque instant, à chaque minute de notre existence, on peut prendre conscience que Dieu est en nous et le prier, avoir un rapport intime avec lui. Et ça, malgré notre faiblesse, malgré notre pauvreté personnelle, toutes nos incapacités, ça n'a aucune importance. Cette porte de la prière, elle est toujours ouverte. Et elle est un échange d'amour, vous voyez, qui justement emprunte la petite voie de confiance et d'abandon si chère à la petite Thérèse. Alors, je vous lis un passage de Thérèse de l'enfant Jésus dans le manuscrit A. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. C'est Thérèse qui le dit, hein? Et voilà le difficile. Consentir à rester pauvre et sans force. Alors l'esprit du Carmel où Henri vient d'entrer, c'est également l'esprit du prophète Élie, du grand prophète Élie, dont les Carmes recueillent l'esprit. Et dans son livre « Je veux voir Dieu », qui est une large synthèse de l'enseignement des saints du Carmel. Les saints du Carmel, pour mémoire, je les rappelle, Thérèse de Jésus, Saint Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est les trois grands, et qui sont tous les trois docteurs de l'Église. Être docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des guides sûrs vers le chemin de l'union à Dieu. Après, bien sûr, vous avez Élisabeth de la Trinité, qui sera canonisée après-demain, et puis beaucoup d'autres, hein, mais ce sont les trois grands maîtres du Carmel. Eh bien, le père Marie-Eugène nous présente Élie, dans son livre « Je veux voir Dieu », comme un homme, je le cite, « constamment à la recherche de Dieu et constamment livré à son action intérieure et extérieure ». Il dit « il se livre et c'est toute son occupation à lui, livré à Dieu, livré aux hommes ». Et la devise du prophète Élie, qu'est-ce que c'est? Vous la connaissez peut-être. Hein, il est vivant, le Seigneur en présence de qui je me tiens, et je brûle de zèle pour lui. Au fond, c'est l'union de l'action et de la contemplation, c'est de la prière et du travail quotidien, hein, que le père Marie-Eugène désirait voir se répandre dans la vie de tout chrétien. Il était convaincu qu'on ne pouvait travailler, comme il disait, travailler qu'en étroite collaboration avec l'Esprit-Saint, voyez, c'est-à-dire pris par Dieu, envahi par l'Esprit-Saint, même si on n'en a pas conscience, hein, et puis nourri par une prière soutenue et quotidienne. Vous voyez, c'est le même Esprit-Saint qui nous appelle et qui nous envoie, qui crée en chacun de nous ce double mouvement de présence à Dieu et de présence aux hommes. Alors, pour qu'il devienne bienheureux, il a fallu un long temps d'études, de recherches, et le décret de Rome qui reconnaît la sainteté de sa vie souligne justement le désir du père Marie-Eugène de, je cite ce décret, « porter la contemplation dans la rue ». C'est-à-dire de faire entendre le plus largement possible l'appel universel à la sainteté. Et alors justement, il dit, c'est sur le poster là, « Des gens qui cherchent Dieu, il y en a partout. Ah, si je pouvais les atteindre tous et leur parler de l'amour infini. Alors, juste une petite parenthèse parce que je ne vais pas insister, mais c'est ce double mouvement, c'est ce désir de porter la contemplation dans la rue qui est à l'origine de la fondation de Notre-Dame de Vie en 1932. Vous voyez, on est bien avant ce qu'on appelle les nouvelles communautés, hein, on est bien avant le Concile, 1932. Et 15 ans plus tard, Pie XII a institué ce qu'on appelle les instituts séculiers, hein, qui n'est pas une forme au rabais de la vie religieuse, mais qui est une nouvelle forme de vie consacrée dans le monde. C'est-à-dire que le père Marie-Eugène, justement, il avait conscience du trésor que possédait le Carmel, et il voulait le répandre partout, dans tous les milieux les plus variés, auprès des hommes et des femmes les plus éloignés de l'Évangile. Et pour cela, il fallait surtout le vivre, d'abord le vivre, cet idéal du Carmel intégralement, se laisser emporter par l'esprit, et puis ensuite partir dans le monde pour le vivre et en témoigner. Et c'est donc ce qu'il a proposé aux premiers membres de Notre-Dame de Vie. D'abord, se former pendant 2 ans à l'écart du monde. Nous, on appelle ça dans le jargon religieux 2 ans de noviciat, à part, à l'écart. S'accrocher à Dieu, comme il disait, par une vie de silence et de solitude où Dieu se donne. Et puis, une fois que cette intimité, cette soif de Dieu est bien établie, eh bien, retrouver le monde. Et alors, ce qui fait la caractéristique d'un institut séculier, c'est s'insérer dans le monde par une activité professionnelle ordinaire. Voilà. Et donc, par exemple, moi, j'étais professeur de littérature française au Japon. Dans cette activité professionnelle ordinaire, avec un métier, eh bien, on exercerait surtout un apostolat de présence et puis de partage des réalités quotidiennes, là où s'exerce l'amour au jour le jour. Car le père Marie-Eugène, il croyait plus au sermon de la personne qu'au long discours qu'il cherche à convaincre. Et comme le pape François, il désirait, je cite le pape, des apôtres capables de réchauffer le cœur des personnes, de dialoguer et cheminer avec elles, de descendre dans leur nuit, dans leur obscurité. Mais en même temps, il faut que l'apôtre garde toujours le contact avec la source, sinon on se perd dans le monde. Et il faut garder le contact avec l'Esprit-Saint qui informe tout. Et donc, il nous recommandait la fidélité à l'oraison quotidienne. Nous avons 2 heures d'oraison par jour. Et au retour régulier dans le silence et la solitude pour refaire nos forces. Voilà. Alors, cette intimité avec l'Esprit-Saint, eh bien, elle transparaissait sur le visage de notre fondateur qui avouait un jour... Il nous disait « Tout le monde a remarqué probablement que quand je parle de l'Esprit-Saint, je m'enflamme assez facilement. Je l'appelle mon ami et je crois que j'ai des raisons pour cela. Toute ma vie a été basée sur la connaissance, sur la découverte de l'Esprit-Saint. » Bon, alors je ne peux pas développer ce soir cet aspect fondamental de la spiritualité du père Marie-Eugène, car ça mériterait une conférence à part, le père Marie-Eugène et l'Esprit-Saint, et que j'étayerais éventuellement, non avec de pieuses pensées, mais avec l'expérience de toute sa vie. Alors, à défaut de vous faire une conférence sur l'Esprit-Saint, je vous cite juste quelques petites phrases que je crois vous pourrez retrouver dans le livret, il y a beaucoup de choses à votre disposition que vous pourrez prendre. En voici une. « Il est vivant l'esprit d'amour qui vit en moi et qui m'a pris depuis longtemps. Ma sainteté sera de croire en lui, en sa présence et de me livrer à son esprit, à son emprise. » Voyez, ma sainteté sera de croire en lui. Et en 1959, il nous faisait une conférence de préparation à la Pentecôte. Et alors, il nous a dit, il a confessé humblement, il dit, ben, si j'ai à me reprocher quelque chose sous la lumière de Dieu, le plus grand péché que Dieu m'ait reproché, c'est de ne pas avoir suffisamment cru à cette présence et à cette action de l'Esprit-Saint. Parce que je n'ai pas assez cru, Dieu n'a pas assez travaillé. Donc, voyez l'importance, le plus important à ses yeux, c'est bien la foi en la puissance de la prière et non pas dans les capacités humaines. On a toujours confiance dans nos propres forces, mais non. Et justement, il ajoute à propos de l'Esprit-Saint, qu'importent les qualités naturelles. La grande richesse, c'est d'être saisi et transformé par l'Esprit. Qu'importent les qualités naturelles. Ça console, ça. Et enfin, cette dernière phrase que j'aime beaucoup et qui est très forte. La sainteté consiste dans un état de pauvreté tel qu'à tout instant, on soit obligé de tout demander à l'Esprit-Saint, qu'on soit sous sa dépendance, suspendu à son secours, convaincu que sans sa grâce, on ne peut rien faire. Au début de sa vie religieuse, lorsqu'il était encore tout jeune carme à Lille, le père Marie-Eugène se disait ébloui de contempler de près dans les personnes qui se confiaient à lui le travail de l'Esprit-Saint dans les âmes. Il écrit justement à sa sœur, Sais-tu, ma chère Berthe, que rien n'est plus beau au monde que de trouver Dieu dans une âme et d'y suivre son action. Donc cette foi immédiate, vous voyez, absolue dans l'action de Dieu, bien c'était la source de son optimisme. Encore un trait qui l'apparente fortement à la petite Thérèse. Comme elle, d'ailleurs, il citait un psaume de l'Écriture, il pouvait dire à Dieu, comme il est dit dans le psaume, Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Alors, voyez sa photo, cela transparaît sur son visage. Alors, ici, le mot optimisme n'est peut-être pas vraiment adéquat. Car même si c'était un trait de son tempérament, un fruit de son éducation, il s'agissait moins d'une qualité naturelle que de l'expression de sa foi et de sa confiance inébranlable en la miséricorde. Alors voici, je vous cite un témoignage de quelqu'un qui l'a connu. Sa foi était si forte qu'il neutralisait par sa présence le doute et le découragement. Quand je connaissais moins le père Marie-Eugène, je me demandais comment il pouvait être à la fois si intelligent et si optimiste. Il donnait à chacun toutes ses chances, ainsi que le fait l'amour miséricordieux. Alors, cette confiance inébranlable, ça ne signifie absolument pas qu'il n'a pas connu d'échec dans sa vie, hein, et que tout lui a réussi. Bien sûr que non, hein, il en a eu comme on en a tous, hein. Mais il rebondissait toujours. Et à la fin de sa vie, il aimait dire que Dieu l'avait toujours contrarié, mais en mieux. Hein, c'est un acte de foi, hein. Il y voyait la main de Dieu dans ce qui lui arrivait et il continuait à marcher. Voilà, marcher, voilà un verbe que le père Marie-Eugène utilisait souvent. Allez, marcher, marcher, hein, avancer. Hein. Et juste une parenthèse, André Chouraqui, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un exégète juif qui a traduit les évangiles. Eh bien, il traduit le mot bienheureux dans les béatitudes par en marche. Ouais, c'est intéressant. ce qui donne « En marche les humiliés, oui, il est à vous le royaume d'Élohim. En marche les affamés de maintenant, oui, vous serez rassasiés. En marche les pleureurs de maintenant, oui, vous rirez, etc. » Vous voyez, cette exhortation à marcher exprime bien le dynamisme de la vie de Dieu en nous et l'importance de ne pas se décourager, hein, de persévérer dans l'espérance au milieu et malgré toutes les épreuves de la vie. Et il disait, ce n'est pas parce que la route monte qu'on s'est trompé de chemin. Beaucoup de nos jeunes pourraient l'entendre, hein. Ce n'est pas parce que la route monte qu'on s'est trompé de chemin. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la grâce qu'elle n'existe pas. Et marcher, espérer, ce n'est pas fuir. Hein. C'est au contraire recevoir à chaque pas la force de l'engagement. Mais il s'agit de marcher au pas de Dieu. Et quelquefois, il faut aller très vite pour ne pas rater le coche. Et le plus souvent, il faut faire preuve de beaucoup de patience pour laisser au grain le temps de germer. Alors parfois on a l'impression qu'on n'a plus le moral, enfin on connaît tous ça, hein, que rien ne se passe ou même que ça va de plus en plus mal. Hein. Mais le Père Marie-Eugène nous répond, le bon Dieu permet cela pour qu'on ait recours à lui, pour qu'on soit obligé de faire appel à lui dans les moindres choses. Alors il ne s'agit pas de se laisser aller à penser que Dieu est absent, qu'il nous a abandonnés, non, non. Jésus se donne le droit de dormir dans la barque et pour nous obliger à la confiance. Et c'est ce qu'il aime le plus. Vous voyez, dans l'Évangile, finalement, les paroles les plus fréquentes de Jésus, c'est « Ta foi t'a sauvé, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et ça, le Père Marie-Eugène, si un jour il est saint et même docteur de l'Église, il sera docteur de la foi. Bon, nous savons aussi, et ça c'est d'expérience, que l'amour et la souffrance ne peuvent pas être séparés. Et que tout ce qui que nous soyons, ben, nous sommes appelés à traverser la souffrance, comme Jésus lui-même à l'heure de sa passion. Alors le Père Marie-Eugène le sait bien, hein, lui qui un jour nous a confié à la fin de sa vie, et je dois le prendre pour moi ce soir, si on parle de moi, il faudra dire que je suis simple, pauvre, et que j'ai beaucoup souffert. Et pour tous, il continue, il y a des objections de tout notre être contre la souffrance annoncée. Notre pauvre nature humaine, notre foi, ont besoin d'être soutenues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à notre Seigneur, « Montrez-nous la clarté lointaine de la fin du tunnel, que nous marchions vers ce point lumineux qui brille dans l'obscurité. » Ou encore, je le cite, et c'est une très belle méditation, « Qu'il y ait du brouillard ou de la tempête. » Ce soir, on est servi, ce n'est pas encore la tempête, mais c'est déjà la neige bientôt. Hein. « Qu'il y ait du brouillard et de la tempête, ou au contraire une lumière très douce, nous sommes toujours dans la miséricorde. Une fois que nous avons été pris par elle, elle ne nous lâche plus. Elle nous gardera, à condition que nous sachions la reconnaître par une humilité constante, une pauvreté qui s'accepte et une reconnaissance qui s'est éclatée en toutes circonstances. » Alors, une troisième fois, je vous dis, regardez donc le visage du futur bienheureux. Hein? Parce qu'un jour, il nous a confié « J'ai une joie de fond extraordinaire. » Et cette reconnaissance, cette joie, cette confiance en Dieu transparaissait dans tout son être. Et il confirme un témoignage qui disait « Il avait un regard si fort, si clair, si profond qu'il donnait Dieu et envie de l'aimer. » Si on était tous comme ça, comme témoins de Dieu dans notre vie quotidienne, ce serait magnifique. Une autre personne qui était professeure de philosophie et qui ne le connaissait qu'à travers son œuvre « Je veux voir Dieu », confie aussi « J'ai été surprise de découvrir que l'auteur de Je veux voir Dieu avait cet accent rocailleux. Il avait un accent aveyronnais assez prononcé. Ce rire clair, cet amour de la vie. Et lui-même d'ailleurs remarquait et nous conseillait un beau sourire. Cela fait transparaître la vie que vous trouvez dans l'oraison. Bravo, Père Sébastien, vous avez un beau sourire. Je vous ai vu ce matin à la messe, j'ai dit ça transparaît. Bravo. Il faudrait que l'amour passe par vos yeux, par votre visage. Il y a un rayonnement de l'amour surnaturel par le rayonnement naturel. Le bon Dieu se sert même de cela. Il faut que vous sachiez aimer, rayonner l'amour extérieurement en mettant de l'amour dans vos yeux et sur votre front. Ça, c'est très concret, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est un visage qui convertit. Hein. Alors, je vais vous donner un tout petit peu, parce que je ne veux pas, même si on a commencé un petit peu en retard, vous donner un peu de mon témoignage personnel. Puisque j'ai connu le père Marie-Eugène les 7 dernières années de sa vie, de 60 à 67. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Et quand nous le rencontrions à Notre-Dame-de-Vie ou ailleurs, il nous accueillait toujours avec joie, avec un grand sourire, une affection manifeste. Il nous bénissait, puis il nous demandait aussitôt de nos nouvelles, comment ça va, il s'intéressait à tous les détails de notre vie. Est-ce que vous dormez assez, vous mangez bien, vous n'escamotez pas le petit déjeuner, hein? Et puis bien sûr, il s'intéressait à notre apostolat, il nous donnait des conseils pour l'adapter le plus possible à l'évangéliser comme à l'évangélisateur, hein? Et puis quand on exprimait un peu trop notre pauvreté, il nous grondait, il nous disait en substance, écoutez, ça suffit, après tout c'est le bon Dieu qui vous a créé et il vous aime comme vous êtes. S'il a mauvais goût, c'est son affaire à lui. Vous lui faites beaucoup de peine en revenant toujours sur le négatif. Il ne voulait pas qu'on se regarde trop, supportait pas qu'on exagère ses défauts. Et si il nous apprenait à être lucides sur nous-mêmes, et il voulait qu'on reconnaisse surtout le travail de la grâce en nous, et il lançait dans la confiance, voyez. Et toute son éducation était orientée vers l'oubli de soi. D'où le verbe marcher. Allez, oubliez-vous, avancez, marchez. Tout le reste, c'est dans la miséricorde. Il se mettait sans effort à la portée de chacun. Ben, c'était un bon aveyronnais, très simple, hein. Il est vraiment resté simple toute sa vie, dans ses contacts, comme dans son être même. Sa charité était très concrète. Quand on allait se promener dans la campagne autour de Notre-Dame-de-Vie, il s'arrêtait, parlait avec les paysans, il demandait des nouvelles, s'intéressait à tout, les travaux, les récoltes, le vin, les cerises, c'est le pays, hein, et les enfants, les malades, etc. Et s'il sentait que quelqu'un avait besoin de lui, sa bonté était extraordinaire. Pendant la guerre, il était très bon avec ses soldats. Et par exemple, un jour de passage à Marseille, il a voulu rendre service à l'un de ses soldats dont le papa était malade et âgé. Et il a fait une longue démarche pour aller dans la banlieue voir les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, pour demander s'il pouvait prendre ce papa malade et âgé, et ça a marché. De même, il y avait à Notre-Dame-de-Vie un jardinier qui avait perdu la tête à la fin de sa vie. Et il était allé le voir dans ses moments de lucidité, il le faisait prier et tout offrir pour les missions, pour l'Église. Et il parlait de lui avec beaucoup d'amour, vous voyez, sans une critique, pour ces personnes qui souffrent dans leur équilibre mental. Ils pensaient que Dieu est la santé de l'âme et qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans le fond de l'être. Et nous avons expérimenté sa paternité spirituelle. Qu'il dépassait largement sa grâce de fondateur, c'est-à-dire pas uniquement à Notre-Dame-de-Vie, il était père avec les carmes, avec les carmélites, avec toutes les personnes rencontrées, les plus jeunes, les plus âgées, avec nos mamans aussi. Hein. Avec papa, il s'est un peu disputé, mais avec maman, il a été très très bon. Hein. Et il avait comme besoin de donner cet amour, hein, de le répandre. Hein. C'était pour lui la façon de prolonger la maternité spirituelle de la Sainte Vierge, d'être apôtre, voyez, d'évangéliser avec joie et discrétion. Hein. Il disait être saint, exercer la maternité spirituelle, être apôtre, voyez, c'est trois verbes, être saint, exercer la maternité spirituelle. Être apôtre, ce n'est pas faire des miracles, même s'il en faut un pour être béatifié et canonisé. Hein. Et ce miracle, vous pouvez le lire dans le petit livret que vous pouvez prendre. Hein. C'est être plein de la grâce de Dieu jusque dans les facultés, c'est entretenir cette plénitude par des actes soutenus. Et il y avait un père Carme de Rome, où le père Marie-Eugène a vécu pendant 17 ans, et qui plus est en communauté, ce qui n'est pas toujours le plus facile de vivre en communauté, n'est-ce pas? Eh bien, voici le témoignage qu'il a donné. Père dans toute l'acception du mot, il avait des attentions et des délicatesses extraordinaires. Sa charité était exceptionnelle. Il savait peser les hommes, valoriser leurs capacités, leur laissant ensuite cette liberté d'action qui pousse au travail et à l'application. C'était l'homme de l'authentique dont la plénitude intérieure était faite de simplicité. Alors j'ai insisté sur sa simplicité. Hein. Elle pourrait cacher chez lui l'envergure d'un véritable maître spirituel, hein. Un guide averti pour mener les hommes sur les chemins de la rencontre avec Dieu. C'était un expert de la prière intérieure, hein, un familier de l'Évangile, on peut dire un prophète pour le 21e siècle. On peut dire aussi, comme Paul VI a décrit Thérèse d'Avila, c'était un contemplatif incomparable, inlassablement actif. Alors, je peux passer un petit peu vite. Il a été directeur de la revue Carmel. Hein. Il a prêché des quantités de retraites, quelquefois plus de 50 par an, en particulier sur Thérèse de l'Enfant Jésus et sur Saint Jean de la Croix, et puis ensuite sur l'oraison, sur la prière. Hein. Si vous prenez le temps de venir boire la tisane, eh bien vous verrez, vous pourrez acquérir quelques livres. Alors, dans ces livres-là, évidemment, Je veux voir Dieu, qui est la somme de théologie spirituelle, pas de théologie, mais où il synthétise l'enseignement des maîtres du Carmel. Bon, c'est un ouvrage écrit, donc avec un style assez. Bon, c'est dense. Hein, mais en même temps, c'est magnifique pour savoir où on va dans la vie spirituelle, où Dieu veut nous mener, hein, et par quoi on va passer sans prendre peur, en sachant qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est « Je veux voir Dieu ». Mais si vous voulez un enseignement plus simple, tous les autres livres publiés du Père Marie-Eugène sont des ouvrages d'enseignement oral. Et on a gardé l'enseignement oral, donc c'est beaucoup plus simple. Hein. Alors, bon, il a eu de multiples activités. Pie XII l'a chargé, l'a nommé visiteur apostolique de tous les Carmels de France. Et à son époque, il y en avait 143. Et donc, il a sillonné la France par tous les temps. Hein. Il a été aussi chargé de les grouper en fédérations, de façon à ce qu'elles puissent se soutenir mutuellement. Il était vraiment inlassablement actif, c'est-à-dire attentif à toutes les nécessités de notre temps, vraiment très ouvert. Et comme il a été, il a eu de hautes responsabilités à Rome pendant longtemps, pendant un an il a même remplacé le général des Carmes qui était décédé accidentellement, il a fait quantité de voyages, la Palestine, la Turquie, le Liban, l'Inde, Vietnam, Philippines, Mexique, Canada, États-Unis et tous les pays de l'Europe. Alors ceci lui a donné évidemment une grande culture, une grande ouverture, il a bien appréhendé toute la question de évangile et culture, voyez. Et on a dit de lui qu'il avait un coup d'œil mondial catholique au sens plénier du mot. Alors bon, il faudrait pouvoir lire sa vie, mais vous pouvez l'acheter tout à l'heure si vous voulez. Bon, il a mené quoi, trois vies en une, quoi. Quand Monseigneur Gaucher, qui a écrit sa vie, cherchait un titre, il était marrant, Monseigneur Gaucher, il plaisantait toujours. On va prendre comme titre trois vies en une, comme ça. Oui. Alors, il est venu, outre tous ses voyages, évidemment, il est venu au Lot, du 19 au 22 août 1943, prêcher une retraite aux universitaires qui s'y trouvaient réunis. Et il avait été invité par Henri Maroux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était professeur d'histoire du christianisme à la Sorbonne. Et alors, le bulletin des universitaires de l'époque parle du père Marie-Eugène comme une idéale figure carmélitaine au regard si profondément bon et dévoué. Et il était considéré dans le bulletin du Lot comme un don de Notre-Dame. Et un courant de sympathie était passé entre le prédicateur et le grand professeur qui l'avait invité. Plus tard, c'est le chanoine Vernet, que certains d'entre vous ont probablement connu, comme moi, qui apprécia énormément le livre de « Je veux voir Dieu », et qui est entré en contact avec lui, et qui est venu à Notre-Dame-de-Vie passer 6 mois, et qui s'est engagé dans le groupe des prêtres de Notre-Dame-de-Vie, qui, pour la plupart, sont diocésains. Donc, il était resté diocésain, et il était engagé dans la famille spirituelle de Notre-Dame-de-Vie, disons la famille carmélitaine de Notre-Dame-de-Vie. Voilà. Donc, aussi, je ne sais pas s'il en a entendu parler, mais vous savez qu'il y a des liens très étroits entre le Lot, Notre-Dame du Lot, et les prêtres de Notre-Dame de Sainte-Garde, qui étaient établis tout près de Notre-Dame-de-Vie, à 4 km. Car les prêtres de Sainte-Garde ont été fondés en 1700 par le père Berthet, et en 1712, ils ont été appelés par l'évêque d'Embrun pour venir aider à développer le pèlerinage de Notre-Dame-du-Lot. Et ils eurent notamment la tâche délicate, mais primordiale, de libérer le pèlerinage du Lot, quoi, de l'influence du clergé janséniste local, qui entravait l'œuvre. Au fond, a traduit dans les mots d'aujourd'hui, eh bien, ces prêtres de Sainte-Garde qui sont venus aider le pèlerinage de Notre-Dame-du-Lot ont rendu accès à la miséricorde, en essayant de débarrasser la région du jansénisme ambiant. Alors bien sûr, en séjournant au Lot, le père Marie-Eugène y a longuement prié la Sainte Vierge, à qui il vouait une telle confiance filiale et un tel amour. Il était possédé par un tel désir de la prolonger et de lui ressembler. Alors je reprends toute petite phrase du petit mot qu'il a dit le soir de son ordination sacerdotale. Le début, je vous l'ai lu tout à l'heure, « Je suis prêtre pour l'éternité, ce mot suffit à mon bonheur. » Et la fin, je vous la lis maintenant. « Et vous, ô Marie, je vous dois tout, puisque c'est vous qui m'avez conduit et fait ce que je suis. » Je vous donnerai donc tout, spécialement mon cœur, avec la joie dont il est rempli. Contemplez votre œuvre. Mon bonheur suffit aujourd'hui à votre bonheur, puisque vous êtes ma mère et que prêtre, je veux plus que jamais rester votre enfant.